grands titres de ce dimanche, le leadership du Premier ministre australien sous les projecteurs avec la publication du sondage News Poll très tôt demain matin. Un fourgon fonce sur un bar à Münster en Allemagne. Il y a plusieurs morts et des blessés. Et puis l'Australie en tête au jeu du Commonwealth de la Gold Coast. Tout d'abord, en Australie, le Labour critique les dissidents au sein du gouvernement Turnbull. Les membres du Monash Forum qui veulent faire construire une nouvelle centrale électrique à charbon. Et puis l'ancien Premier ministre Tony Abbott, au sein de ce forum, entame une course à vélo de 1000 km, le Polypedal Charity Ride, pour lever des fonds qui aident à soutenir les anciens combattants et leurs familles dans le domaine de l'éducation, de l'emploi et de santé mentale.
We're riding over the dividing range twice, but every year I say it's going to be easier next year, but then somehow we managed to plan a route which has got a lot more hills.
Tony Abbott, qui a promis de ne pas déstabiliser le gouvernement et de ne pas lancer un challenge contre le Premier ministre pour retrouver son ancien poste. Le ministre de l'Énergie, Josh Frydenberg, insiste que le Premier ministre gardera son poste malgré le sondage News Poll qui sera publié demain, qui montrera sans doute pour la 30e fois d'affilée que la coalition est derrière le Labour. Malcolm Turnbull avait à l'époque dit que Tony Abbott, l'ancien Premier ministre, avait perdu 30 sondages d'affilée et une des raisons pour lesquelles, pour justifier son challenge, alors pour prendre le poste de Premier ministre. Josh Frydenberg est confiant du leadership de Malcolm Turnbull.
The leadership is safe with Malcolm Turnbull. I believe he's doing a really important job in some challenging circumstances. But if you look at his record and if you look at the alternative, it's a clear-cut choice. The coalition is the only way forward.
Josh Frydenberg. Tania Plibersek, la chef adjointe du Labour, a réagi sur Sky News, soulignant la mauvaise performance du gouvernement et que les électeurs sont déçus du Premier ministre.
$2.2 billion of cuts to university, billions of dollars of cuts to vocational education and TAFE, $700 million cuts from hospitals, close to 400,000 pensioners who've lost their pension or had it reduced, the disaster on energy policy and climate change, the big NBN fail. I mean, these are the issues that concern people. News poll is just, I suppose, a symptom of that.
La travailliste Tania Plibersek. Le prince Charles a presque terminé sa visite en Australie. Hier, il était à Vanuatu et ce dimanche à Cairns. Et ensuite, il se rendra dans le territoire du Nord pour 2 jours. Le prince Charles revient sur sa visite à Vanuatu.
I have heard a great deal about these islands from my father, whose ties to your country are, I know, particularly cherished. On this special occasion, I bring you Her Majesty the Queen's and Prince Philip's warmest greetings.
La population locale était ravie de le voir. On les écoute.
It's our first time to see a prince, so for me, I'm happy. I'm happy to see him.
He went to the market and he saw our handicrafts, and they're so beautiful. I think he's so fascinated by what we have. We're so proud of what he's able to say, because our mom have worked so hard to be able to put a lot in that market.
Réaction de la population locale à Vanuatu. Ailleurs dans le monde, en Allemagne, un fourgon a foncé sur un bar populaire dans la ville de Münster, tuant 3 personnes et blessant plusieurs autres. Le chauffeur s'est ensuite donné la mort. Ce n'est pas un acte terroriste, déclarent les autorités allemandes. Écoutez le ministre allemand de l'Intérieur, Herbert Röhl.
Mein Mitgefühl oder tiefe Trauer gilt.
My sympathy and deep grief goes to the families whose relatives have died or are seriously injured and who are still struggling for their lives.
Le ministre allemand de l'Intérieur. On écoute maintenant le reportage de Pascal Thibault pour Radio France Internationale.
Les autorités excluent la thèse d'un attentat terroriste islamiste. L'auteur de l'attaque, commis avec une voiture bélier dans la vieille ville de Münster, était un Allemand. Différents médias le présentent comme un homme d'une quarantaine d'années souffrant de troubles psychologiques. L'homme a agi seul, fonçant avec son véhicule à travers le centre-ville de Münster pour terminer sa course devant un café-restaurant connu où de nombreuses personnes se trouvaient en terrasse, profitant d'un après-midi de printemps ensoleillé. Deux personnes, deux employés du restaurant ont été tués. L'auteur de l'attaque s'est donné la mort dans la foulée avec une arme à feu. Une vingtaine de personnes ont été blessées. Six d'entre elles se trouvaient dans un état grave. Si les autorités semblent exclure une piste islamiste à laquelle beaucoup ont d'abord songé, le profil et les motivations de l'auteur de l'attaque restent à éclaircir. L'attaque de Münster a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique. La chancelière Merkel s'est dite profondément bouleversée et a assuré que tout sera fait pour élucider cette affaire et soutenir les victimes et leurs proches.
Pascal Thibault pour RFI en France. La SNCF prévoit que le mouvement contre la réforme de la société pourrait durer jusqu'à fin juin. Report précision de Francine Quentin pour RFI.
C'est le deuxième round dans le combat qui oppose le gouvernement aux cheminots. La règle du jeu établie par les syndicats, à savoir 2 jours de grève sur 5, complique les anticipations des usagers. Le mouvement, qui va durer jusqu'à lundi matin, devrait être suivi, selon la direction, par 35% des salariés indispensables au fonctionnement du service, les conducteurs, les contrôleurs et les aiguilleurs, entraînant encore de fortes perturbations. La CGT a même laissé planer la menace que le mouvement prévu jusqu'à fin juin se poursuivre au-delà de cette date, si aucune véritable négociation ne s'engageait avec le gouvernement. Pour l'instant, le blocage est total entre les syndicats et la ministre des Transports, Elisabeth Borne, sur le statut des cheminots, la reprise de la dette de la SNCF et les recrutements dans l'avenir. Cette grève du rail et les mouvements sociaux qui se multiplient par ailleurs ont conduit Emmanuel Macron à s'exprimer jeudi prochain sur TF1. Car, dit-on à l'Élysée, peut-être certaines mesures ont-elles été mal comprises parce que mal expliquées.
Francine Quentin pour RFI. Le Parti socialiste en France est en congrès à Aubervilliers pour un nouveau départ avec un nouveau leader, Olivier Faure, officiellement investi premier secrétaire hier. On écoute le reportage de Marine de la Moissonnière pour RFI.
Si tous au PS s'accordent à dire qu'il faut soutenir les revendications des cheminots, en revanche, pour Olivier Faure, il ne faut pas s'allier avec le reste de la gauche et avec l'extrême gauche. Cela reviendrait à récupérer le mouvement social et cela le desservirait. Un avis que partage Stéphane Le Foll, qui précise que le PS a un espace propre à occuper.
Moi, je pense que le Parti Socialiste ne peut pas se confondre avec une gauche qui est dans une ligne extrêmement protestataire. Le Parti Socialiste, c'est pas son rôle. C'est un parti à vocation gouvernementale. Et donc nous sommes dans l'opposition, mais en même temps il faut qu'on soit capable d'avoir une stratégie qui soit une alternative, mais surtout une capacité d'alternance.
A l'inverse, Luc Carvounas et Emmanuel Morel veulent que le PS s'engage aux côtés des autres partis de gauche. L'eurodéputé estime que le parti doit être dans l'opposition frontale à Emmanuel Macron.
Le PS, il doit être dans toutes les initiatives unitaires qui visent à dénoncer la politique d'Emmanuel Macron et à proposer une alternative. Il ne s'agit pas d'instrumentaliser le mouvement social, il s'agit au contraire de lui donner un débouché politique. C'est notre rôle, c'est notre mission historique.
Emmanuel Morel a annoncé qu'il comptait créer d'ici un mois un micro-parti rassemblant des membres du PS et des anciens socialistes qui partagent ses idées. Le congrès du PS n'est pas encore fini, mais déjà les dissensions éclatent au grand jour.
Marine de la Moissonnière pour RFI. Des manifestants anti-gouvernementaux en Hongrie contre la tenue des élections législatives de ce dimanche. Le parti du Premier ministre contrôle les 2/3 de la majorité avec les chrétiens démocrates et selon les sondages gagneront haut la main ces élections. Écoutez le directeur de Transparency International Hungary contre la corruption.
Les gens savent que la corruption est très répandue dans ce pays. Ils la dénoncent, même s'ils pensent qu'au fond, c'est business as usual. C'est comme ça qu'on vit et qu'on travaille dans ce pays. Il n'y a même pas vraiment de mécontentement. Les Hongrois pensent qu'au fond, quand un homme politique accède au pouvoir, il devient forcément corrompu. Il y a une très grande méfiance vis-à-vis des institutions. Cette méfiance est bien sûr un sentiment partagé partout en Europe. Mais ici, ce sentiment est encore bien plus fort. Ici, personne ne peut imaginer qu'il puisse simplement exister un leader qui ne soit pas corrompu.
Le directeur de Transparency International en Hongrie. Le président américain Donald Trump a déclaré il y a quelques jours souhaiter déployer l'armée le long de la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine. 400 soldats de la garde nationale seront déployés, comme nous l'explique Grégoire Portier pour RFI.
Effet d'annonce, polémique, quelques corrections, puis début de mise en œuvre à minima, ce schéma se reproduit souvent actuellement aux États-Unis. Pour le moment, les gouverneurs du Texas et de l'Arizona ont répondu à la volonté de Donald Trump d'avoir recours à la garde nationale pour endiguer le flot de clandestins à la frontière avec le Mexique. Les deux autres États concernés, Californie et Nouveau-Mexique, n'ont eux pas encore réagi. En attendant, ce sont donc 250 hommes au Texas, 150 en Arizona, mais aussi du matériel, des hélicoptères et des véhicules qui doivent arriver dans les deux prochains jours. Ce n'est pas la première fois que la garde nationale est sollicitée pour renforcer le contrôle de la frontière. Les présidents Bush et Obama avaient déjà eu recours à cette force militaire de réserve en 2006 et 2010, à une époque où les entrées clandestines étaient beaucoup plus nombreuses, même si les arrestations sont largement reparties à la hausse au mois de mars dernier. L'appui prévu devrait être essentiellement technologique et logistique, la loi fédérale interdisant à la garde nationale de participer à des opérations de maintien de l'ordre. Dans un premier temps, le Pentagone a approuvé hier un financement jusque fin septembre pour un total potentiel de 4000 hommes.
Grégoire Portier pour RFI. L'ex-président brésilien Lula da Silva, visé par sa condamnation à 12 ans de prison, a annoncé hier qu'il accepte de se rendre à la police. Chose faite selon François Cardona pour RFI.
Ils se sont rassemblés pour exiger la libération de Lula et l'annulation de sa condamnation. Des militants du Parti des Travailleurs et des mouvements de défense des droits de l'homme, convaincus que Lula est innocent, comme Anthony à 38 ans.
Personne n'a de preuves qui montrent que Lula a volé de l'argent. Lula, c'est le caillou dans la chaussure de tous les politiciens corrompus. Tout cela, c'est pour qu'il ne gagne pas l'élection.
Lula comptait se présenter à l'élection présidentielle d'octobre prochain. C'était le candidat favori des sondages malgré les affaires de corruption en série. Edilson, concierge dans un immeuble, continue de croire en l'icône de la gauche brésilienne.
C'est quelqu'un qui s'est enfin préoccupé des pauvres, de ceux dans le besoin. Et si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui mon fils est diplômé de l'université grâce aux programmes sociaux mis en place par Lula. Alors même en prison, toute ma famille votera pour lui.
Malgré son incarcération, Lula a annoncé son intention de continuer à faire campagne. La justice électorale décidera en septembre prochain si sa candidature reste valide.
François Cardona pour RFI. Des centaines de milliers de manifestants devant le Conseil législatif de Hong Kong pour soutenir un académique qui aurait fait des commentaires pour demander l'indépendance de Hong Kong de la Chine. Pékin veut une action légale contre lui. Le professeur Benny Tai souligne l'importance de la liberté de parole et de la liberté académique.
All these attacks are very much like the kind of attacks people suffer during the Cultural Revolution. And that should not happen in Hong Kong. Hong Kong is not a place like in mainland China. We have the rule of law and we have the freedom of expression.
Un mot de sport avec les Commonwealth Games de la Gold Coast. Et après trois jours de compétition, l'Australie a 22 médailles d'or, suivie de l'Angleterre avec 14 médailles d'or. Et en troisième position, le Canada avec 5 médailles d'or. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximale de 24 degrés, Adélaïde 33, Melbourne 29, Hobart 17, Canberra 29, Sydney 29, Brisbane 29, Cairns 31, Darwin 34 et à Alice Springs maximale de 33 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche, le leadership du Premier ministre australien sous les projecteurs avec la publication du sondage News Poll demain. Un fourgon fonce sur un bar à Munster en Allemagne. Il y a plusieurs morts et des blessés.